Yes, nada, no, nine, dameda. Je ne veux pas, c'est comme ça. Je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré, l'émission féministe pour déranger.
Un jeudi sur deux.
De 19h à 20h. Une heure de féminisme.
Sur Radio Campus Grenoble, 90.8.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, nous sommes trois aujourd'hui. Moi, Caro.
Ensuite, il y aura Hello Bordy.
Et Alice à la technique. Et de quoi on va parler ce soir? On va parler des produits menstruels et de leur industrie.
Mmh.
Industrie très concentrée dans la main de quelques fabricants, comme par exemple Procter & Gamble, qui possède les marques Always, Tampax, Johnson & Johnson, qui possède les marques Vanianet, et la marque suédoise Essitic, qui possède Nana et Tena.
Eh bien...
Et pour parler de ces produits, on va s'appuyer sur le travail d'une philosophe de formation qui s'appelle Jeanne Guin et qui s'intéresse au consumérisme et au jetable en s'intéressant à l'histoire des produits. Elle a écrit deux bouquins après, avec cette approche. Le premier s'appelle « Le consumérisme à travers ses objets » et elle parle des gobelets, vitrines, mouchoirs, smartphones et déodorants sortis aux éditions Divergence imprimé en 2023, mais quand est-ce qu'il est sorti? Erreur de débutante. Et son dernier bouquin s'appelle « Histoire des produits menstruels », dans lequel elle parle serviettes jetables, tampons jetables et applications de suivi de règles, toujours sorti à Divergence en janvier 2023. Il se trouve qu'elle est partie présenter son livre à la librairie Les Modernes à Grenoble, mais malheureusement je n'y étais point. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Jeanne Guin? Elle choisit d'étudier le consumérisme à travers les objets pour éviter de se focaliser et de se responsabiliser sur le consommateur, la consommatrice, pour en faire une histoire psychologique et l'histoire d'un problème de certaines catégories de personnes qui aimeraient consommer plus que d'autres, parce qu'elles seraient jeunes et naïves, parce qu'elles seraient femmes et frivoles, ou parce qu'elles seraient riches et ne sauraient pas quoi faire de leur argent, ou parce qu'elles seraient pauvres et voudraient paraître riches. Et on va vous lire un extrait de son premier livre.
Fuir les manuels de bien consommer. Faut-il préciser que ce livre ne parle pas de son auteur ? Son but n'est pas de faire savoir que je n'ai jamais utilisé de produits jetables ou regardé la vitrine d'un magasin. En plus d'être fausse, ces déclarations n'auraient aucun intérêt. On le dit, et je le répète, les discours écologistes ou anti-consuméristes qui se focalisent sur la consommation individuelle en donnant des préceptes à chacun chacune pour mieux consommer ratent leur cible. Rappelons qu'avec l'ADEME, que les impacts sociaux et environnementaux des biens de consommation sont avant tout liés à leur fabrication, et que la part des déchets ménagers dans l'ensemble des déchets produits par un pays comme la France est bien plus faible que celle des déchets produits par l'industrie, notamment celle du BTP. S'il reste que ces déchets ménagers sont bien trop nombreux, on ne peut pas réduire les problèmes socio-économiques ni les problèmes écologiques à des questions de choix individuels. Comme si chacun décidait effectivement de la manière dont les objets étaient produits, et comme si nous étions tous libres et égales face au marché. Les sociétés consuméristes sont des milieux qui exercent des contraintes sur le mode de vie de chacun chacune. d'autant plus dans des sociétés inégalitaires dont les membres ne disposent pas tous de moyens, des mêmes moyens financiers ou culturels, ni du même pouvoir médiatique. La notion de choix individuel sur un marché libre où tout le monde est égaux est elle-même une invention consumériste. Ce discours, cette figure du consommateur et sa version contemporaine du consomme-acteur, plus ou moins éco-responsables, font partie de ces valeurs consuméristes dont je souhaite étudier l'histoire.
Et donc, pourquoi les gens consomment-ils ? Parce qu'il y a des produits sur le marché. Et pourquoi les gens jettent-ils ? Parce que les produits sont jetables. Arrêtons de regarder les gens, regardons les industries. Et lorsque Jeanne Guin regarde les industries et l'évolution des produits qui ont été fabriqués, elle retrace plus une histoire sociale qu'une histoire technologique. Et elle explique très bien cela dans une conférence qu'elle a donnée et qui a été enregistrée, qu'on peut retrouver sur YouTube et dont on va passer un extrait tout de suite. Elle parle de l'industrie des applications menstruelles.
Le produit gratuit est souvent un produit d'appel pour un produit payant. Bref, donc ces applications, pour moi, restent des produits marchands. Et elles montrent bien, donc pour conclure sur cette premier temps de cette culture menstruelle comme marchandisation, elles montrent bien que voilà, il est toujours question de prendre aux personnes menstruées quelque chose qu'elles avaient déjà pour leur revendre sous une autre forme. Et ça, c'est une constante dans l'histoire de la société de consommation. Qui prétend beaucoup inventer des choses, l'innovation. C'est ça aussi le modernisme, hein, innovation. On va y revenir sur la question de l'innovation. Elle prétend avoir inventé des nouveaux produits, mais en général, elle a surtout inventé des manières de les rendre payants. C'est comme ça, en tout cas, que j'analyse. C'est pour ça que je la vois sous l'angle plutôt de l'histoire du marketing que sous l'angle de l'histoire de l'ingénierie. Non, mais l'histoire des techniques, c'est ça. Il y a des mecs qui inventent des trucs. Voilà. Fin de l'histoire. Il y a une date où un mec blanc a inventé un truc. C'est en général ça, l'histoire des techniques. Alors que, en réalité, comme je l'ai dit, nous vivons dans un monde rempli d'objets, certes, la plupart de ces objets sont des produits. Ils sont pas des objets qui sont là, qui sont arrivés de manière... qui ont circulé en dehors du marché. Non. Donc, raconter aussi comment un objet... envahit notre environnement, c'est raconter comment aussi on l'a commercialisé, et pas seulement quelqu'un qui, quelque part, a eu une super idée, et paf, ça s'est diffusé.
Voilà. Et c'est quelque chose que l'on voit très bien dans l'industrie des serviettes jetables. Parce que, qu'est-ce qui se passait au tournant 19e siècle ? On utilisait principalement des linges menstruels réutilisables qui pouvaient être achetés ou qui pouvaient être auto-fabriqués et que l'on fixait à des ceintures ou aux vêtements par des systèmes d'épingles, de nœuds, boutons, etc. Et en parallèle, il existait déjà des serviettes jetables qui étaient commercialisées, mais qui étaient restreintes à des circonstances exceptionnelles. C'est-à-dire, on les vendait pour les personnes qui voyageaient ou bien pour les personnes qui venaient d'accoucher. Mais ça ne venait pas encore à l'esprit de les vendre pour un usage mensuel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une industrie, Kimberly-Clark, qui fabriquait du papier d'emballage et du papier pour les journaux et des livres, a développé un matériau qui s'appelait le cellucoton. Qu'est-ce que c'est que le cellucoton ? C'est un ersatz de coton. C'est-à-dire, dans le coton, on a de la cellulose qui est presque pure. Le procédé qui a été inventé, ça a été de pouvoir récupérer la cellulose qui est produite dans le bois, et la solubiliser pour pouvoir la remettre en forme ensuite, dans la forme que l'on souhaite. Pour faire par exemple du papier, des feuilles comme les feuilles de cellophane, ou pour faire des fibres artificielles. Et ce cellucoton a été vendu aux armées, à la Croix-Rouge, aux États, pendant la Première Guerre mondiale, pour fabriquer des masques à gaz et des bandages. Okay. Et quand la guerre fut finie, l'industrie s'est retrouvée avec des invendus et a mobilisé des ingénieurs afin de trouver des applications pour le marché civil. Et sont venues deux idées. L'idée d'en faire des serviettes menstruelles jetables. Et c'est ainsi qu'est née la serviette Kotex. Et son produit jumeau, les mouchoirs jetables, les Kleenex. Et ces produits ont des points communs dans leur trajectoire parce que c'est des produits qui ont été vendus en premier à des clientes plutôt bourgeoises, avec des pubs des années 20 où on les voit avec leurs grands chapeaux descendre les marches, qui parlent de l'inventaire nécessaire de sa royale délicatesse, la femme moderne qui serait incomplète si on ne trouvait pas au moins une boîte de Kotex. Qu'on voyait faire des loisirs chers, aller à cheval, faire du patin, dont le travail se réduisait à arranger des fleurs et acheter des Kotex. Et on leur vendait ces serviettes jetables avec des promesses de réduction du travail domestique, plus besoin de faire cette lessive-là, avec des promesses hygiénistes et une décrédibilisation des techniques de linge réutilisable qui serait pour les pauvres, qui serait pour les vieilles. Mais ce qu'il y a avec l'industrie du jetable, c'est que c'est en fait une industrie de l'externalisation. Le travail que la bourgeoise ne fait pas à laver ses linges, quelqu'un va faire le travail de gérer la serviette usagée. L'industrie Kotex se vante de produire 0% de déchets industriels, tout en vendant un produit qui est destiné
à être jeté,
à devenir un déchet ménager. Et c'est comme ça qu'on voit qu'en fait, il n'y a pas de coïncidence entre le moment où quelqu'un a eu une idée et le moment où le produit a été mis massivement sur le marché. Et la mise sur le marché ne correspondait pas à un besoin qui avait été exprimé par des gens, mais par un besoin économique. Et Jeanne Guin, elle critique quelque chose qu'elle appelle le techno-washing. En gros, elle dit qu'il y a réellement des changements dans les propriétés des produits qui ont eu un impact sur les consommateurs. Elle donne l'exemple du moment à partir duquel les serviettes ont été revêtues d'une couche imperméable au fond, et le moment où les serviettes n'ont plus été accrochées à une ceinture menstruelle, mais ont été collées directement à la culotte. Mais à côté de cela, les marques vont utiliser des termes obscurs pour décrire des pseudo-technologies, et ceci de façon à créer une illusion du progrès et une raison pour faire augmenter les prix. La chose est nouvelle, donc cela justifie des dépenses de marketing et donc cela justifie une élévation des prix pour la consommatrice. Voilà, elle définit cela comme des allégations à la nouveauté et à la scientificité.
Oh waouh, c'est fou tout ça, tout ce qu'ils ont inventé pour, du coup, pour réduire enfin tous ces stocks d'invendus après la Première Guerre mondiale pour que ce soit ensuite des déchets jetables, et enfin. Et à quel point ça a touché les femmes à l'époque, enfin.
Et deux dernières anecdotes sur le sujet. La première, c'est que les premières serviettes jetables Kotex étaient tellement mauvaises que quand le concurrent a demandé à une femme de faire une étude de marché, celle-ci a découvert en interviewant les utilisateurs que la moitié modifiait le produit d'une façon ou d'une autre, en le recoupant, en retirant ou en remettant de l'absorbant. Mmh. Et la deuxième chose, c'est
en adaptant leur flux à leur morphologie, quoi.
Voilà, parce que les premières serviettes n'étaient qu'en une seule taille. Mmh. C'est seulement après que l'idée est venue d'en faire plusieurs. Et dernière anecdote concernant la coupe menstruelle, il y a également un fort décalage entre le moment où une femme a déposé un brevet en 1935 d'un produit qui ressemblait déjà aux coupes menstruelles telles que l'on les découvre ensemble. Ses tentatives de commercialiser le produit se sont soldées par un échec en 1937. Puis après, une entreprise a repris ses droits et réessayé de commercialiser avec échec dans les années 50. Et ce n'est que depuis 1987 que l'entreprise Keeper a pu mettre sur le marché des coupes en latex selon une économie qui a pu être viable.
Donc c'est fou, tous ces aléas qu'il y a eu. Mm. Et on va continuer avec un son et on va écouter une petite zik et ça va être Plug de Luna Chicks. Et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes de retour sur Radio Campus 90.8. Vous écoutez l'émission féministe pour déranger, dégenrer. Et on est sur un cycle en ce moment, du coup, et on va parler des produits périodiques et de l'industrie des périodiques, des produits périodiques. Et donc là, on va continuer justement sur ce que eux, les industriels répondent sur cette consumérisme-là et sur le fait que ces produits-là soient jetables. N'est-ce pas, Caro?
Ouais, les industriels qui produisent leurs serviettes avec les technologies 3D Guard et Fit and Flex et Odor Dry Techno Washing.
Oh wow.
Et donc ces industries ont dû faire avec des critiques de plusieurs ordres. La première critique, c'est une critique environnementale qui est liée à la destruction des forêts boréales, des forêts naturelles. Mmh. pour produire les fameux produits absorbants jetables. Et le fait que l'industrie de la pâte à papier soit l'industrie la plus consommatrice d'eau et qu'elle croît principalement en mettant sur le marché des produits d'hygiène jetables. L'industrie Kimberly-Clark, donc, qui a donné naissance à Kleenex Ecotex, a été, par exemple, épinglée par l'association Greenpeace. Et elle a répondu en promettant que au moins 40% des matières premières seraient recyclées ou en provenance de forêts conformes au label FSC. Sauf que, qu'est-ce que le label FSC? Quand on regarde qui administre l'organisation chargée de décerner ces labels, eh ben, ce sont principalement des industriels du papier. Quelle confiance peut-on avoir dans les labels ou les think tanks lorsque ce sont des marques qui s'auto-congratulent et qui s'auto-décernent des lauriers et qui s'auto-imposent les standards qu'elles veulent bien. Un deuxième type de critique était des critiques d'ordre sanitaire. Et je vais parler du scandale des tampons super absorbants dans les années 70.
C'est quoi ce scandale?
Alors, c'était une marque de produits d'hygiène, Procter & Gamble, qui vendait des choses comme du papier toilette, comme du déodorant, si je ne me trompe pas, mais qui n'avait pas encore de produits menstruels. Et donc, il a voulu se lancer, mais...
sur le marché, en se disant, on va se faire des thunes dessus.
Sauf que le marché était déjà saturé par des produits. Pourquoi une nouvelle utilisatrice utiliserait ce nouveau produit plutôt que ses produits habituels? Eh ben, leur argument de vente, ça a été de lancer un tampon super absorbant. D'après son slogan publicitaire, eh ben, il absorbait même l'inquiétude. Et contrairement aux autres tampons du marché qui étaient en coton ou en rayon, c'est-à-dire du coton reconstitué comme je vous en avais parlé, celui-là, il était composé de méthylcarboxycellulose. C'est de la cellulose qui a été modifiée, à qui on a rajouté des groupements chimiques afin de lui donner des propriétés pour augmenter la viscosité et pour piéger les liquides en formant un gel. Mmh. Il est utilisé, entre autres, comme additif alimentaire, comme texturant ou dans les cosmétiques, toujours pour ses propriétés. Ça promettait de pouvoir absorber jusqu'à 20% de son poids. Et on s'est rendu compte dès 1974, grâce à une défenseuse des droits du consommateur, que ces tampons étaient liés à une affectation grave, le syndrome du choc toxique. Cette affectation a été comprise en 78. En 1980, on a compris que parmi les victimes du SCT, celles qui utilisaient les tampons Relay étaient surreprésentées. Ce n'est qu'en octobre 80 que la FDA, l'organisme régulateur états-unien, a imposé une retour des boîtes des tampons Relay. Et ce n'est qu'en 84, donc 10 ans après les premières critiques, que la rayon polyacryate, un de ces polymères super absorbants, ont été interdits. Oh. En fait, pourquoi ce tampon était dangereux? Pour plusieurs raisons. Parce qu'il absorbait l'humidité naturelle du vagin et qu'il causait des micro-lésions qui pouvaient s'infecter au niveau du retrait. Parce qu'il était vendu comme surabsorbant et on le recommandait de porter pour des durées beaucoup trop longues. Et parce que ces polymères qui augmentaient la viscosité créaient un environnement qui était favorable à la croissance des bactéries. Et en particulier le staphylocoque doré, qui est naturellement présent dans 1% des vagins. Et en présence de ce tampon, bah, les personnes qui avaient le staphylocoque dans leur vagin avaient une prolifération de cette bactérie qui produisait une toxine qui était responsable de la maladie. Et qu'est-ce que l'industrie du tampon a fait? Il a mis en place la stratégie du doute. Qu'est-ce que c'est? C'est également utilisé par les marchands de tabac, par exemple. Et ça consiste en, lorsqu'on est au courant que son produit présente des dangers écologiques et sanitaires, financer des recherches afin de pouvoir dire « et attendons, nous ne sommes pas encore sûrs que le produit est dangereux ou pas dangereux ». Et c'est ainsi que l'on peut gagner du temps et continuer à commercialiser son produit 10 ans après les premières alertes. Un deuxième scandale sanitaire concerne les dioxines, dont on parle de 1989. Et le problème, c'est que c'est jamais intentionnel de mettre des dioxines dans un produit. C'est toujours des produits accidentels, des by-products. En l'occurrence, des produits liés au blanchissement, au chlore des tampons. C'est jamais intentionnel, c'est jamais de la faute de personne. La substance responsable de la catastrophe de Seveso était une dioxine, c'était inintentionnel. Et l'agent orange, un herbicide qui a été tout à fait intentionnellement déversé sur le Vietnam pour désherber et pour vulnérabiliser les populations, a été accidentellement contaminé par de la dioxine. Les effets herbicides, c'était intentionnel. La dioxine, c'était pas fait exprès. Depuis avril, on a une législation qui oblige à indiquer les compositions des produits menstruels sur les étiquettes. Mais le problème, c'est qu'il s'agit seulement des produits intentionnels. Et comme disent les fabricants dans leur site extrêmement rassurant, non, nous ne mettons pas intentionnellement des produits toxiques dans les produits. Ben, manquerait quelque chose, en fait. Et comment les marques répondent à ça? Elles répondent par un greenwashing et en créant des produits bardés de label, vegan, sain, bio, etc., qui sont plus chers. Parce que elles considèrent la demande de produits plus écolos et plus sûrs comme un besoin auquel on répond en créant une nouvelle gamme, inaccessible aux personnes qui n'auront pas les moyens et qui se rabattront sur les produits moins chers. Et une dernière critique qui a essuyé le marché dont je vais parler, c'est une critique décoloniale. Les entreprises qui mettent en vente ces produits sont des multinationales et qui vont essayer de gagner des consommatrices dans les endroits où tout le monde n'utilise pas encore de serviettes et de tampons jetables. Et pour ce faire, elles vont parfois faire des partenariats avec des ONG dans le but de distribuer des serviettes jetables généralement, en disant vouloir agir pour le bien des écolières qui ratent l'école par manque d'accès aux serviettes jetables. Et c'est cette approche qui ne prend pas en compte les pratiques déjà existantes des personnes est critiquée par une activiste menstruelle indienne, Sinu Joseph, dont on va lire un extrait de un exercice de pensée qu'elle propose.
Qu'est-ce que cela ferait si je mettais à m'inquiéter du fait que les Américains ne rincent pas leurs fesses comme nous le faisons en Inde et me donnais pour mission de leur faire abandonner le papier toilette pour adopter l'eau? Et puis je lancerai une entreprise sociale pour fabriquer et installer des bidets dans les salles de bain des foyers américains. Et je conduirai des campagnes de sensibilisation pour enseigner aux enfants américains l'importance de rincer leurs fesses avec de l'eau. Et pour augmenter mes ventes, je décrédibiliserai publiquement ceux qui utilisent du papier toilette. C'est exactement ce que le Menstrual Health Management fait aujourd'hui en Inde. Je sais que c'est dur à entendre. Mais essayez de vous mettre à la place de ceux qui reçoivent la bonne parole envoyée en Inde depuis l'extérieur. Et vous verrez combien ça devient étouffant. La prise en compte des savoir-faire locaux et le respect pour le pays dont vous avez choisi de tirer profit sont complètement absents.
Mais en fait, Sinu Joseph, c'est une personne qui a par le passé eu cette démarche, comme elle le dit elle-même, en tant que travailleuse sociale indienne, mais ingénieure de formation et venant des villes, qui voulait aider les femmes rurales. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle leur a proposé une serviette fabriquée artisanalement par une machine conçue par un homme. Mais elle avait testé ce produit avant et elle avait constaté que ce produit était d'une qualité déplorable, fuyait au bout d'une heure et se désagrégeait quand on essayait de le décoller de la culotte. Mais elle avait tout de même promu ce produit en pensant bien faire, en se disant « mais pour celle-là, ça devrait aller ». Et elle s'est fait rejeter violemment par les mères indiennes des campagnes qui l'accusaient de vouloir rejeter sur leur fille leur camelote. Elle n'avait pas tort. Depuis, elle a changé d'approche. Elle continue à faire des interventions dans les campagnes indiennes pour parler des menstruations, mais maintenant c'est un dialogue. Et maintenant, elle ne cherche pas à convaincre d'utiliser un produit en particulier. Elle dit vraiment que les linges menstruels traditionnels, ne présentent aucun danger du moment qu'ils sont correctement lavés et correctement séchés. Que les personnes qui choisissent d'empiler plusieurs couches de sous-vêtements ou même de ne rien faire de particulier, que si ce n'est pas un problème pour la personne, il n'y a pas de solution à apporter. Et elle rappelle quand on dit que les ados ratent leurs cours et quittent l'école à cause d'un manque de protection hygiénique, il y a des limites à ça. Parce que d'une part, également dans les pays dits occidentaux et développés, il y a des ados qui ratent les cours pendant leurs règles, ça existe aussi. Et d'autre part, les ados qui ratent leurs règles pendant les cours, quel que soit le pays, le font principalement à cause des douleurs menstruelles qui ne se résolvent pas directement avec des serviettes hygiéniques. Et que les ados qui quittent définitivement l'école une fois qu'elles sont menstruées, le font parce qu'elles ont été mariées. La logique de la serviette hygiénique est également pas tout à fait directe. Et c'est pour ça que maintenant, elle conseille aux personnes de ne plus distribuer des produits, ou en tout cas de vérifier que ça correspond bien aux besoins des populations que l'on cherche à aider, et de, au minimum, de se poser la question de comment vont faire les personnes quand elles n'auront plus accès aux produits distribués gratuitement, et également de comment seront gérés le produit. Est-ce qu'il va y avoir des infrastructures et quelles vont être les conditions de travail des personnes qui vont devoir gérer ces déchets. Voilà, c'était pour vous parler des critiques décoloniales des industries menstruelles.
Je trouve ça fou à quel point on disait que ça, le fait de ne pas avoir accès à des protections périodiques jetables, ça faisait en sorte que les ados allaient moins à l'école. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment un truc de point de vue de performance et de productivité, quoi. De notre société capitaliste, de toujours vouloir en faire plus, d'être la meilleure, de faire mieux. Je trouve ça assez fou à quel point ça a été détourné comme ça aussi.
Et je vais en profiter pour vous citer une petite publicité pour vous dire que cet argument productiviste, il a été développé par les industries menstruelles qui faisaient des publicités pour des tampons dans lesquelles on disait « pas besoin d'apprendre des jours de congé pendant tes règles, ce n'est pas une période différente des autres ». Ton trouble doit être apporté à ton docteur ou celui de ton entreprise. Tu ne veux pas en vouloir à un employeur s'il considère que des absences prolongées à chaque période menstruelle sont non seulement inutiles, mais coûteuses, au point qu'il vienne à en songer à en remplacer à une fille qui se rendrait coupable de congé menstruel. Et si tu oublies cette règle simple qui veut que les règles soient une période normale de chaque mois, si tu te retires chaque mois comme si tu étais malade, alors c'est que tu essayes de profiter de la nature conciliante de ton mari. Il a épousé une épouse à plein temps et non à temps partiel. Tu dois donc être active, joyeuse et pleine d'entrain tous les jours. Utilisez des protections pour faire plaisir à votre patron et à votre mari.
Pour qu'il s'engraisse sur votre dos. Allez. Je trouve ça hallucinant. Et ensuite, on va continuer avec un petit rap avant de finir avec la troisième partie. Et ça va être un rap qui s'intitule « Tout le monde saigne ». qui a été écrit par Pauline Hercule et Pierre Laloge pour un spectacle qui s'appelle La mécanique des fluides, dont les deux sont interprètes, et je vous en parle un petit peu plus après.
Le sang palpite,
mon cœur bat vite,
c'est le son de la vie,
balance le beat.
Tout le monde a un corps, tout le monde a un cœur, dont tout le monde sue et tout le monde pleure. Tout le monde a un corps, tout le monde a des veines, tout le monde sait que tout le monde saigne.
En soi, tout est fluide dans nos corps, ces rumens se ramènent. Des glandes déclenchent tout un tas de phénomènes. Les lacrymales pour nos joies, pour nos peines. En hiver, on tousse,
tousse.
Le mucus s'accumule, allez,
pousse, pousse. La salive coule quand les babines s'animent. Un peu gorphone et fleur salie. Salie, c'est forme, une forêt folle. Dans cette trépidante, c'est beau, c'est grand, luxuriant. Le corps, c'est la seule évidence. C'est l'océan des êtres vivants. Tout le monde a un corps, tout le monde a un cœur. Donc tout le monde sue. Et tout le monde pleure. Tout le monde a un corps, tout le monde a des veines. Tout le monde sait que tout le monde saigne. L'océan du corps, un sacré vivier, un bordel de bourrelets. La peau fait des sourds, les particules s'hydratent. Les virus nous piratent en passant par nos pores qui se dilatent. Cellules, follicules, molécules, poils au cul, tous ces petits trucs bizarres. Le sang dans ces vaisseaux part de la moelle osseuse.
Il circule à foison, descend dans les valseuses.
Passe par le cœur comme le son par les oreilles.
Le corps connaît déjà son parcours par cœur.
Tout le monde a un corps, tout le monde a un cœur. Donc tout le monde sue. Et tout le monde pleure,
tout le monde a un corps,
tout le monde a des veines,
tout le monde sait que tout le monde saigne. Les corps s'épanouissent, fuck,
il faut que les tabous se brisent
pour que les peurs s'évanouissent.
Alors les règles, c'est pas classe,
mais que les patriarches se regardent dans la glace.
Ils sont poilus des oreilles, mais en vrai tous les corps sont beaux, aucun n'est dégueulasse.
Tout le monde a un corps,
tout le monde a un cœur,
donc tout le monde sue et tout le monde pleure.
Tout le monde a un corps,
tout le monde a des veines.
Tout le monde sait que tout le monde saigne.
Et donc, il n'y a pas très longtemps, je suis allé voir un spectacle qui s'appelait La mécanique des fluides de la compagnie Fil Rouge à Sassenage, au Prisme. Donc, ce spectacle, il a été écrit par Elisabeth Desbois, mis en scène par Adèle Gascuel, avec pour interprète donc Pauline Hercule et Pierre Laloge. Et donc, c'est un spectacle autour des règles et comment elles sont perçues dans la société. Tout ça avec sérieux, mais aussi humour. Et donc, on retrouve sur scène Antoine et Chloé qui nous racontent sans tabou tout ce que les règles font à nos vies à travers l'histoire des règles, les superstitions, les idées perçues et du coup, comment on, les deux essayent de déconstruire tout ça. Et donc, on va continuer avec un entretien de l'équipe sur ce sujet-là.
Oui. Écrit la pièce La mécanique des fluides avec toute l'équipe de la compagnie Fil Rouge. Voilà.
Moi, je suis Pierre Laloge et je suis comédien dans le spectacle La mécanique des fluides.
Et je suis Pauline Hercule et je suis comédienne sur le spectacle La mécanique des fluides.
À la base, j'avais vraiment envie de parler du corps et en quoi il est magique et merveilleux et comment tout se combine super bien dans notre corps. Et j'avais une amie comédienne qui avait plein de soucis avec ses règles et on en parlait souvent. Et tout d'un coup, toutes les deux, on s'est dit mais en fait, il faudrait faire un spectacle sur les menstruations. L'idée m'a tout de suite plu et j'avais vraiment envie de m'adresser plutôt au public jeune, aux collégiens en particulier. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches sur les menstruations et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que le côté biologique qui était intéressant, mais aussi tout le côté de ce que ça raconte de notre société, de nos histoires. Et du coup, c'est devenu aussi un spectacle un petit peu féministe.
Et on peut peut-être revenir sur cette question d'inclusivité dont on parlait tout à l'heure. Ce truc de dire que bah, en fait il y a pas que des femmes qui sont menstruées, il y a aussi plein d'autres personnes qui ont aussi leurs règles. Et du coup, comment vous avez eu envie de l'inclure dans la pièce?
Mais comme tu disais, j'avoue que j'y ai pas pensé tout de suite quand j'ai fait mes recherches, et ça date, en fait j'ai commencé à penser à la pièce en 2017, et c'est vraiment l'arrivée de Pierre dans l'équipe qui a aussi déclenché toute une réflexion. Et on a eu cette volonté de rendre la pièce beaucoup plus inclusive et donc de changer parfois notre vocabulaire. Et je pense qu'on a assez bien réussi, même si des fois on re-questionne des choses, certaines parties du texte où on dit encore les femmes, on se dit est-ce que là c'est vraiment ce mot qu'il faut mettre ou pas.
C'est l'avantage du spectacle vivant, c'est qu'aussi on peut se re-questionner et faire changer les choses en fait, au fur et à mesure. Il y a des choses qui étaient là à la création, qui ont disparu ou qui se sont transformées. Et donc on est toujours un peu en réflexion sur les sujets un peu plus, qu'on maîtrise aussi moins, parce que peut-être on n'est pas concerné. Donc on a aussi posé des questions à des gens qui étaient concernés, qui n'étaient d'ailleurs pas tous forcément d'accord. Donc c'est un choix qu'on fait, mais c'est des choses qui sont mouvantes, je dirais.
Du coup, tu t'es aussi basée sur un recueil de témoignages, c'est ça?
Oui, donc j'ai recueilli beaucoup de témoignages, donc de personnes qui avaient par exemple des endométrioses ou même en fait de sportifs de haut niveau, mais un peu n'importe qui pouvait venir témoigner. Et après, on a fait une sélection de ces témoignages, et c'est les témoignages qu'on entend dans le spectacle.
Ouais.
Et il y a aussi une partie des anecdotes qu'on m'a racontées qui se retrouvent dans le texte du spectacle, dans la scène sur les protections, mais même aussi l'histoire de l'anorexie. Enfin, voilà,
ouais.
Petite touche, en fait.
Les règles restent encore un tabou, et du coup, vous avez décidé à quelquefois d'aller plutôt dans la provoque, avec histoire de plusieurs raps tout au long de la pièce. Comment ça vous est venu de se dire, on va plutôt rentrer par le rire et par l'humour et
alors
par le chant.
Ça, je pense que c'est aussi un peu propre à nous tous dans l'équipe. Donc Adèle, dont on parle beaucoup, c'est la metteuse en scène. Elle aime beaucoup qu'il y ait de l'humour dans les spectacles. Et en fait, les menstruations, c'est un sujet très souvent... moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour quand on va chercher dans ce sujet, parce que ce tabou, ça a créé tellement d'incohérences, en fait. Ça a créé tellement de situations complètement cocasses. Enfin, comme l'idée de Léonard de Vinci, que en fait, c'était le sang qui se transformait en lait dans les seins. En fait, c'est juste trop drôle. Et pourtant, c'est vrai, il pensait ça. Et donc, en fait, le sujet en soi, quand on fouille, il y a tellement matière à rire. Et je trouvais que c'était une formidable approche, en fait, pour intéresser, pour parler du sujet.
Merci, ça a été chouette de cet entretien. Je vous conseille d'aller le voir et de vous faire votre propre avis et de ne pas hésiter à nous faire nos retours, des retours aussi sur ce que vous en avez pensé. Et donc, ce spectacle est assez chouette parce qu'il souhaite parler un petit peu à tout le monde et du coup de faire en sorte que les règles soient moins tabous, notamment sur le public plus jeune. Donc, c'est un spectacle qui est beaucoup joué en collège et en lycée. Et donc, il souhaite intéresser vraiment et s'adresser à tout le monde. Et on va continuer ensuite avec les alternatives. Qu'est-ce qui est possible justement pour remplacer les produits périodiques jetables? Et pour ça, on s'est tourné vers une asso qui s'appelle Bon Sens. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Caro?
J'ai interviewé Marion, cofondatrice de Bon Sens, pour cela, et elle va nous le dire elle-même.
Oui, alors je suis Marion, je suis cofondatrice de l'association Bon Sens, qui est donc basée à Grenoble, qui existe depuis 3 ans et demi, et l'objectif principal, c'est de lutter contre le tabou des règles. Du coup, en termes d'action concrète, on a plusieurs volets d'action, on va dire. On fait beaucoup d'ateliers couture, de protection périodique réutilisable, donc soit serviettes, soit sous-vêtements menstruels. On a des ateliers à destination plutôt du grand public et d'autres qui sont plutôt à destination de publics en situation de précarité. On fait aussi des animations scolaires. On a créé des outils et des jeux pour parler des règles parce qu'on ne trouvait pas d'outils qui nous convenaient. Donc on a aussi tout cet axe-là où on crée des outils pédagogiques. Et de temps en temps, on a des projets un peu plus ponctuels. Par exemple, on travaille aussi un peu en ce moment sur avoir ses règles en festival. Et donc, avec les toilettes sèches, des fois, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de protection. Enfin, voilà, donc on essaie un peu d'améliorer un peu ces choses-là aussi.
Et des fois, il n'y a pas aussi de point d'eau dans les festivals pour rincer sa cup ou se laver les mains ou quoi que ce soit. Du coup, c'est chiant.
Exactement. Et je lui ai posé des questions sur une des alternatives qui est de acheter des produits réutilisables que l'on trouve de plus en plus dans de plus en plus d'endroits. Maintenant, on trouve des culottes menstruelles à Lidl et à Monoprix.
Ouais, ça s'est assez bien démocratisé aussi. Mais alors, pareil, comment elles sont faites? C'est une bonne question.
Écoutons ce que nous en dit Marion.
Développé il n'y a pas si longtemps, Je me souviens à l'époque, moi j'avais acheté des premières serviettes, enfin, des culottes même lavables qui venaient des États-Unis parce qu'il n'y avait pas de marché en Europe. Maintenant il y en a de plus en plus et il y a plein de petites marques qui se sont créées, notamment des petites un peu start-up, entrepreneuriat, on va faire une boîte de lingerie menstruelle. Et maintenant de plus en plus il y a des grandes marques comme Always, mais il y a aussi des marques comme de lingerie comme Etam ou comme Dim qui se mettent à créer ces protections périodiques. Et d'ailleurs on voit qu'il y a des petites entreprises qui s'étaient créées, ben, qui n'arrivent pas à perdurer dans le temps face à ces grosses entreprises qui reprennent un peu ce marché là. Ça c'est vrai, ça c'est pour les culottes. Plutôt pour les serviettes, il y en avait des, je pense qu'il y en avait avant des serviettes lavables, on en trouvait un peu plus tôt sur le marché. Bah, ça ressemble un peu au linge aussi qu'il pouvait y avoir il y a plus longtemps. Et il y a eu un peu cette mode plutôt au niveau du côté zéro déchet, on va dire. La serviette lavable est moins en vogue que la culotte menstruelle maintenant. Donc ça reste des fois aussi des artisanes qui vont proposer ça sur des marchés, qui vont vendre ça, ou des petites marques qui vendent ça. Mais pour le coup, c'est un marché qui a moins été repris par les grandes entreprises.
Et du coup, acheter du réutilisable, est-ce que c'est forcément mieux ? Bah, ça dépend. Comme on a vu, il y a les grandes entreprises, Tampax qui va faire sa coupe menstruelle, Always qui va faire sa culotte jetable, tout en conservant leur...
Réutilisable, tu veux dire ?
Réutilisable. tout en conservant leur gamme controversée. On voit qu'il peut y avoir des industries plus ou moins petites, plus ou moins artisanales. Mais également certaines industries où tu te demandes en quoi c'est différent de l'industrie conventionnelle. Mmh. Et ça, je pense à la marque de culottes menstruelles Think, fondée en 1914 et qui a eu plusieurs controverses. La première, des allégations de harcèlement sexuel de la part de la PDG sur des employés. Ça la fout mal quand on brandit un étendard féministe. Des controverses concernant les conditions de travail des salariés qui avaient des congés parentaux ridiculement courts prévus. Quelque chose comme 2 semaines de paye complète et 1 semaine à demi-paye et puis après ça s'arrête. Et enfin, une controverse sanitaire, parce que bien qu'elles marketaient leurs produits comme sûrs, comme bio, bons pour la santé et la planète, on a découvert qu'ils contenaient des PFAS, des substances per- et polyfluoroalkylées. C'est quoi ces substances ?
Ouais.
Eh ben, on les trouve dans les ustensiles de cuisine anti-adhésifs. On les trouve dans des vêtements de sécurité pour leurs propriétés imperméabilisantes et on les trouve dans des tissus techniques comme le Gore-Tex pour que ce soit à la fois imperméable d'un côté et respirant de l'autre.
Et qu'est-ce que ça fout là-dedans ?
Il a été découvert que la surface qui était au contact de la vulve, pour faire en sorte que l'humidité passe plus facilement dans la couche absorbante, qu'est-ce que ça contenait ? Des PFAS.
Hallucinant.
Qui vont bientôt être interdits en France, mais pas dans la vaisselle, grâce au lobbying de la marque Seb, qui nous a fait pleurer pour la désindustrialisation de la France. On aura encore des poils en téfal.
Et le téflon, d'ailleurs, qui est une particule qui ne se détruit pas au cours du temps.
Le jeu de mots qu'ont fait les journalistes, c'est Forever Compound, pour FC, la liaison fluorure-carbone, qui dure pour toujours et qui s'accumule pour toujours dans les corps animaux, humains, et dans l'eau et dans l'environnement.
Et qui crée des cancers.
Voilà. Tout ça pour dire, c'est pas forcément parce que c'est réutilisable que c'est bien.
Mais une réponse à ça, est-ce qu'il y a, des alternatives qui sont possibles ou des façons de faire dont nous on peut avoir des produits qui soient réutilisables, dont on sache comment il a été créé, en tout cas. Est-ce que ça c'est possible ?
Il semblerait que oui. Marion va nous en dire plus.
Pour nous, c'est important sur plusieurs plans. En fait, faire ses propres protections, ça permet déjà de savoir ce qu'il y a dedans, Ça permet, c'est plus écologique, surtout qu'on propose soit des tissus bio, soit des tissus entièrement de récupération. Et puis ça crée moins de déchets. Aussi d'un point de vue sanitaire, c'est meilleur parce qu'il y a encore plein de produits pas top dans les protections, notamment jetables. Et même s'il y a des petits progrès sur la question de leur composition, il n'y a toujours pas d'interdiction sur les produits nocifs et c'est toujours pas encadré comme des dispositifs médicaux. Donc il n'y a toujours pas de tests qui sont faits avant commercialisation. Donc c'est super important. Et ça permet de s'émanciper aussi un peu de du commerce habituel, du marché de menstruel qui représente quand même des milliards d'euros chaque année. Et ça permet de faire sa propre protection, de s'empouvoirer un peu, de savoir comment on l'a fait et de pas être dépendante des protections qui sont vendues dans les commerces plus classiques. Alors on a besoin de 3 à 4 tissus. Donc on a un tissu un peu tout doux qui va venir contre la vulve. Ça, souvent on prend de la récup, des vieux t-shirts, des vieux draps. Ensuite on a une partie absorbante, ça s'appelle du tissu éponge. Et en fait, même quand on va en acheter dans le commerce, on voit que ça ressemble à une serviette de bain. Donc nous on utilise souvent des vieilles serviettes de bain, on nous donne des fois des vieux peignoirs, on fait souvent des collectes de tissus pour avoir tout ça. Ensuite, il y a un tissu imperméable qui s'appelle le PUL, mais ça reste respirant et c'est aussi utilisé dans les couches lavables. Et l'alternative récup, c'est les toiles de parapluie. Donc voilà, c'est un peu moins fiable, donc il faut quand même faut faire quelques tests, quoi, mais ça marche aussi. Si on fait une serviette, on va aussi mettre un tissu un peu décoratif derrière. Et si on fait une culotte, on va coudre tout ça ensemble et le mettre sur la culotte. Et donc on peut faire ça avec une machine à coudre, c'est plus rapide, ce qu'on propose pendant nos ateliers, mais c'est aussi possible de faire ça à la main. Et d'ailleurs, nos tutos couture sont décrits à la main pour que ce soit plus accessible, même quand on n'a pas de machine à coudre, quoi. Les produits lavables, ça correspond pas à tout le monde parce qu'il y a quand même des contraintes qui vont avec. Alors déjà, il faut savoir que c'est pas les protections qui absorbent ou qui retiennent le plus le sang. Donc quand on a un flux très important, des fois on va compléter avec une autre protection, une protection interne par exemple, et garder la culotte ou la serviette juste un peu en backup au cas où il y a une fuite. Aussi, ça demande quand même d'avoir accès à un point d'eau pour l'entretien, pour laver, pour sécher. Donc déjà à la fois c'est une charge ménagère en fait, Et en plus, avoir accès à un point d'eau, donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément en vadrouille, en voyage, ou que on a accès à un logement tout simplement, parce que sinon, c'est plus pratique d'utiliser du jetable dans ces cas-là. Donc il n'y a vraiment pas de hiérarchie entre les protections. Nous on propose ces ateliers parce que les protections lavables ça reste très cher et en ce moment il y en a de plus en plus qui vont faire ces protections parce qu'elles ont quand même des avantages. Mais en fait on prône d'avoir le choix. On sait très bien que ça ne correspond pas à tout le monde et que des fois on va compléter ou en fonction de là où on en est dans sa vie, de sa période de vie, on va changer de protection.
Ok, c'est super instructif en fait. Donc, en gros, tu peux faire ta propre protection menstruelle réutilisable. Ça, c'est chouette. C'est-à-dire que tu peux faire ça chez toi si tu as envie, tu as la force et que tu peux récupérer des tissus ou acheter des tissus qui sont plus éthiques et les construire toi-même. Et puis, que ça peut coûter beaucoup moins cher si tu prends des trucs de récup aussi. Du coup, ça rend la chose beaucoup plus accessible.
Mais ça reste quand même bien pratique quand tu as une machine à laver.
N'est-ce pas ? Donc, il faut avoir accès aussi à une machine à laver ou une laverie à proximité. Certes.
Parce que, tout comme les bouquins de Jeanne Guin, cette émission n'a pas pour but d'être un guide de la consommatrice et de vous dire quoi faire et quoi ne pas faire quand vous avez vos menstrues.
C'est clair. Eh bien, on vous remercie de nous avoir écoutés pendant cette heure. À Dégenrer, l'émission féministe pour déranger.
Et on vous quitte avec une dernière musique.
Ouais, et on remercie aussi du coup Alice qui était à la technique, et puis Caro qui a co-animé cette émission. Et donc on va écouter notre prochain morceau musical qui s'appelle Night Toad, d'un groupe qui s'appelle Kleenex.
Qui s'appelait Kleenex.
Qui s'appelait Kleenex et qui ne peut plus s'appeler Kleenex parce que Kleenex a porté plainte contre le groupe. Et donc, ils se sont renommés Lilliput. Try it forever. Try it forever and do it again. Sell the lust, you can't feel it. Give yourself lust, you can't do it. Give yourself the lust and try it forever. Naito, you are so big. Naito, you are so sick. Naito, you are everywhere. Naito, you are so black. Give yourself lust and do it again. Give yourself lust, you cannot do. Give yourself lust and try it forever. Try it forever, you can do. Give yourself lust, you cannot feel it. Naito! Feel it again, and do it again. Come on! Naito, you are so big. Naito, you are so sick. Naito, you are everywhere. Naito, you are so black. Give yourself lust, and do it. You cannot do. Give yourself lust and try it forever. Give yourself lust, you cannot feel. Give yourself lust and do it again.